L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Bâtard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.
Bonsoir mes superbes pépites et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. C'est avec joie que je vous retrouve ce soir pour un nouveau moment d'échange qui va vous apporter un bol d'air frais, une pause pour reprendre son souffle dans nos vies aux rythmes effrénés. Nous allons parler de la respiration, le pranayama. Le pranayama est composé des mots prana, qui signifie force vitale, et ayama, qui veut dire expansion, contrôle. Et le pranayama, c'est l'art de la respiration. C'est un outil fondamental qui permet au corps de se nettoyer, de s'oxygéner, de se réénergiser et de se réharmoniser en faisant circuler la force vitale en conscience. La respiration nous fait vivre, elle nous unit au monde, elle nous permet de ressentir, de percevoir. C'est la forme la plus vitale de notre essence. En Ayurveda, c'est un outil primordial d'hygiène de vie. Il est hautement thérapeutique et c'est d'ailleurs sûrement la voie la plus simple et la plus rapide pour rétablir et maintenir notre équilibre holistique. Car oui, le pranayama est bénéfique aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Il permet une véritable transformation intérieure. Guru Mali Chidvilasananda disait d'ailleurs que la respiration est le pont entre le corps et l'âme. Pour parler de ce vaste sujet, j'ai le plaisir d'être accompagnée ce soir par un yogi qui nous vient de New Delhi. Il a à cœur de transmettre l'essence même du yoga traditionnel à travers ses enseignements. Il a ouvert un centre à Paris dans le 9e arrondissement, le Yoga Laboratorium, et il est très actif sur les réseaux sociaux pour la diffusion authentique de cette philosophie de vie. Bonsoir Pankaj Seni.
Bonsoir Gwenaëlle, comment vas-tu?
Eh bien écoute, ça va très bien, je te remercie, et toi?
Je vais bien également, et puis bonsoir à tous tes auditeurs.
Eh bien oui, c'est sûr, on les salue. On est ravis qu'ils soient là pour nous accompagner pour cette belle émission qu'on va faire ensemble. Alors, dis-moi Pankaj, pour commencer, qu'est-ce que le pranayama et à quoi ça sert?
Comme tu disais très justement, pranayama, c'est déjà deux mots, prana et ayam. Ayam, alors souvent on va parler de contrôle, je vais plutôt parler d'expansion, l'extension, étendre, rendre plus subtil. La citation que tu as dit tout à l'heure, il est très très juste, c'est la pont entre l'âme et le corps. Mais l'âme et le corps, entre ce pont, il y a des transitions, il y a plusieurs corps subtils qui sont présents. À travers le pranayama, on commence à rendre ce prana plus en plus subtil pour avoir accès à tous ces autres corps de notre organisme. Et donc, pouvoir agir sur notre mental, sur nos émotions. Et quand je dis agir, c'est de nouveau pas contrôler, c'est vivre en harmonie avec, qui est la meilleure façon de pouvoir être bien, vivre pleinement sa vie.
Mmh. C'est vrai qu'en plus, enfin, tout simplement, le souffle de vie, hein, déjà, c'est ce qui... On rentre en fait dans la vie avec le souffle, avec le pranayama, d'une façon ou d'une autre, et on part aussi avec son dernier souffle. Donc, c'est vraiment fondamental, en fait, c'est ce qui fait qu'on est aussi des êtres humains.
Absolument, absolument, absolument. Prana, alors il y a Prashnopnishad qui... Cela rejoint un tout petit peu la citation que tu avais déjà dit. Upanishad, c'est des vieux textes de l'hindouisme, et il y en a un qui dit « Prana, c'est l'ombre de l'âme sur le corps.
Mmh. » Mmh.
C'est l'accès à tout notre potentiel, à travers la prana et donc à travers le souffle.
Mmh. Et est-ce que tu pourrais expliquer aussi à nos auditeurs pourquoi la respiration elle est si fondamentale dans le yoga. Alors, pour nous, ça paraît une évidence, mais je crois qu'il y a sûrement beaucoup de personnes en fait, qui se posent la question.
Alors, on peut la voir déjà d'un point de vue énergétique et on peut la voir d'un point de vue très pragmatique, très biomécanique. Si on reste dans la biomécanique, à travers le souffle, on peut agir concrètement et directement sur notre système nerveux. C'est-à-dire, si le souffle est court, rapide, si le système nerveux orthosympathique, si le souffle est court et rapide, c'est le système nerveux orthosympathique qui est déclenché et on va rentrer dans un état de combat-fuite. En contrepartie, si le souffle est posé, calme, profond, c'est le système nerveux parasympathique qui est déclenché et le corps se régénère, se récupère. Il y a un paix d'esprit profonde qui rentre en nous. Donc, rien qu'à travers les biomécaniques, il y a des raisons très spécifiques pourquoi il vaut bien respirer.
Mais en fait, il y a aussi, je pense que ce qui peut être utile aussi pour éclairer un peu nos auditeurs, enfin, je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses, c'est aussi que dans les pratiques yogiques et notamment dans les asanas, les asanas, ce n'est pas que ça, hein, le yoga. D'ailleurs, le yoga, c'est bien plus que les asanas. On l'a déjà vu dans plusieurs épisodes de l'émission La Ayurveda Sourire, pour ceux que ça intéresse en tout cas. Il y a aussi cette diffusion, cette circulation en fait du prana dans le corps à travers les asanas, et aussi cette conscience en fait du corps et de l'énergie qui circule en soi.
Absolument, absolument. C'est-à-dire, on parle très souvent du thérapie à travers les asanas. Mais cette thérapie, il ne peut être fait uniquement si la prana, donc l'essence de la vie, circule comme il faut. Et le souffle, c'est la seule manière dans laquelle on peut agir sur le mouvement de prana dans notre corps durant le travail postural. C'est-à-dire la même posture, si on la fait sans la bonne respiration précise et profonde, il n'aura pas des effets profonds.
Mmh, exactement. Oui, oui. Puis alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, il y a tous ces outils hein, du yoga pour pouvoir en fait faire circuler l'énergie du prana, cet intérêt en fait de pouvoir respirer pour pouvoir être en connexion profonde et en fait être en bon équilibre à l'intérieur de soi. Et en Ayurveda, on utilise évidemment toutes ces pratiques-là, mais on utilise aussi d'autres outils comme l'alimentation ou les plantes. Aussi pour faire circuler l'énergie du prana dans le corps. Donc c'est aussi pour ça que l'Ayurveda et le yoga sont très complémentaires, parce qu'elles fonctionnent vraiment ensemble, c'est vraiment deux sciences sœurs, je le rappelle, mais c'est toujours très complémentaire en fait d'utiliser les deux quand on a envie en fait d'avoir une circulation énergétique fluide dans l'organisme, aussi bien au niveau du corps que de l'esprit.
Absolument, absolument. Toujours, on considérait que Ayurveda, c'était ce qui permettait de se soigner, ce qui permettait de vivre bien dans son corps. Et après, venait yoga pour nous permettre de parcourir la voie spirituelle, mais aussi parcourir notre vraie nature. Donc, les deux étaient toujours, toujours associés l'un à l'autre.
Mmh. Et alors, selon toi, du coup, quels sont les dysfonctionnements, justement, que le pranayama peut résoudre ou en tout cas apaiser?
Alors ça, c'est une question piège parce que concrètement...
parce que je veux dire pour tout.
Absolument, ouais. Parce que s'il y a un dysfonctionnement, c'est là. Alors, je pense que tes auditeurs connaissent déjà les doshas. S'il y a un dysfonctionnement, c'est-à-dire les doshas sont déséquilibres, mais pourquoi les doshas sont déséquilibres? C'est la montre qu'il y a un dysfonctionnement ou notamment un blocage dans le bon mouvement de circulation de prana. Et à travers les pranayams, on peut, concrètement parlant, résoudre quasiment n'importe quel problème. Que ce soit physique, que ce soit psychosomatique, que ce soit psychologique, que ce soit émotionnel, il n'y a pas un seul problème qui ne peut pas être résolu à travers les pranayams.
Oui, en fait, ce que je disais en début d'émission, finalement, je suis complètement d'accord avec toi, c'est qu'en effet, c'est sûrement la voie la plus simple et la plus rapide, en fait, pour retrouver son équilibre et le maintenir. La circulation, en fait, énergétique, c'est toujours, en fait, une base, une clé, parce qu'en réalité, souvent, les dysfonctionnements du corps sont liés aussi à des nœuds énergétiques, hein, quand il y a des espèces d'embouteillages, en fait, on va dire, sur les autoroutes. Donc, c'est vrai que nous, on utilise beaucoup en Ayurveda les outils de pranayama, de respiration, donc pour tout ce qui est troubles respiratoires, les troubles circulatoires aussi, nerveux, ou alors la fatigue, l'asthénie, en fait, aussi toute la gestion émotionnelle aussi qu'on peut avoir, parce que c'est un véritable nettoyage intérieur, mais en fait, c'est parce que ça relance un peu la machine et que ça refait circuler l'énergie de façon fluide dans le corps en évitant justement ces blocages qui favorisent en fait des troubles qui vont se cristalliser dans le corps.
Absolument, tout à fait, Gwenaëlle. C'est uniquement quand le prana circule comme il faut que le corps sera en bonne santé, que l'esprit sera en bonne santé.
Exactement.
Et bien entendu, même pour pouvoir bien pratiquer les pranayams, il y a tout le reste qui doit les accompagner. C'est-à-dire, quand on parle de yoga, on parle des 8 membres de yoga, les 8 piliers. Il faut pratiquer les 8 ensemble parce que l'un est lié à l'autre.
Et ça, tout à fait. Est-ce que tu peux juste redire quels sont les 8 piliers de façon rapide pour nos auditeurs? On en a déjà parlé dans d'autres émissions, mais vas-y.
Les 8 piliers sont les éthiques, ou plutôt la façon dans laquelle on agit avec le monde externe, les observances, la façon dans laquelle on agit envers soi-même, les asanas, qui on voit ça comme des postures, mais à vrai dire, c'est beaucoup plus que ça, c'est le vrai enracinement, connaître qui nous sommes. Il y a les pranayams, le sujet d'aujourd'hui, et ensuite il y a 4 autres membres qui sont pratyahara, qui veut dire faire revenir les sens vers l'intérieur, concentration, méditation et finalement samadhi, qui est, on peut le voir comme l'état de béatitude qui vient quand on est dans une profonde méditation.
Et alors, par rapport justement aux pratiques de pranayama, d'un point de vue concret, pour que les gens en fait aient une idée, moi du coup j'ai parlé en fait de différents troubles, hein, pour donner des exemples, mais par exemple pour le système immunitaire, enfin c'est vrai que c'est quand même utile. Alors bien sûr c'est utile pour toi, hein, on est bien d'accord, le pranayama, mais pour toi par exemple sur le système immunitaire, qu'est-ce que ça peut, quel impact en fait les exercices, les pratiques de respiration peuvent avoir?
Déjà, ça va aider la faute digestive à mieux marcher. Ouais. Et donc, quasiment tout ce qu'on mange, tout ce qu'on consomme sera mieux digéré et mieux converti dans notre OGS, donc notre force immunitaire. Deuxièmement, ça va énormément aider l'esprit à rester apaisé. Et quand l'esprit est apaisé, automatiquement le corps travaille davantage son système immunitaire. C'est pour ça, si on est apaisé de nature, on va moins tomber malade. Tout simplement parce que ça aide le corps à renforcer ses immunités.
Oui, en fait, c'est vrai que du coup, c'est vraiment une clé, ça. En fait, j'en parle tout le temps, mais du coup, je le répète encore pour les auditeurs parce que c'est vraiment fondamental. En Ayurveda, en fait, ce qu'on mange, par exemple, c'est important, mais le plus important, c'est comment on le digère. Et en fait, la nourriture, elle peut aussi bien être alimentaire que émotionnelle. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on va ingérer dans la journée. Et en effet, le feu digestif, donc Agni, cette force, en fait, cette capacité de digestion personnelle qu'on a, elle est fortement influencée, en effet, par la circulation de l'énergie et notamment donc par les exercices de pranayama. Et c'est vrai que du coup, ça a forcément un impact en fait sur le système nerveux, puisque ça permet en fait aussi d'avoir une meilleure clarté d'esprit, aussi d'avoir du détachement par rapport aux choses, hein, parce que on y voit plus clair. C'est comme si ça dissipait un peu le voile, hein, qu'on avait.
Absolument. Alors, je n'aime pas le mot détachement pour la simple et bonne raison que ça montre qu'on est contre quelque chose. Je vais plutôt parler de la non-attachement dans le cadre quand on peut profiter pleinement de quelque chose sans pour autant avoir cette crainte que si un jour on la perdait, qu'est-ce qu'on va devenir. Tandis que détachement, c'est s'éloigner de quelque chose. Ce n'est jamais l'idée de yoga. Yoga n'est jamais dans les dualités. Elle est toujours dans l'unification.
Donc, ouais, ou le non-attachement, ça me va aussi, hein. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est de voir, c'est ça, d'avoir en fait cette clarté-là, pour pouvoir y voir clair en fait, hein, et puis aussi s'apaiser au niveau du système nerveux. Et puis ça favorise aussi un bon fonctionnement de la force vitale, hein, tout simplement, déjà aussi du fonctionnement notamment des chakras, hein, des roues d'énergie qu'on a dans le corps. Ça permet en fait vraiment, encore une fois, une bonne circulation en fait de l'énergie. Et donc forcément, déjà quand il y a tout ça, il y a une meilleure évacuation des toxines, il y a un meilleur nettoyage de l'organisme, parce que finalement le pranayama, ça vient aussi nettoyer les toxines, hein, ça permet de se libérer des indésirables, et forcément dans ces cas-là on est plus fort et on est plus résistant, donc on a un meilleur système immunitaire.
Absolument. D'ailleurs, il y a moins de toxines qui sont produites si le pranayama est pratiqué régulièrement. Ça va réduire la production des toxicités, justement parce que ça va améliorer le système digestif, et le système digestif va évacuer tout ce que le corps n'a pas besoin déjà avant qu'il devienne une toxine.
Exactement. Et alors du coup, comment bien respirer, Pankaj? Ça, c'est parce qu'on respire tellement mal, en fait, de nos jours. On oublie de respirer. On respire que, on a que des respirations hautes, courtes, rapides. On prend plus le temps de respirer. Comment bien respirer?
Il y a un vieux dicton yoga qui dit, chaque fois nous inspirons, nous prenons le cosmos en nous. Chaque fois nous expirons, nous nous tournons au cosmos. La clé pour une bonne respiration, c'est être prêt à donner. Cela démarre toujours avec l'expiration. C'est jamais l'inspire qui est problématique. C'est toujours l'expire qui est problématique. On n'expire pas assez pour que les poumons soient réellement vides, pour que l'abdomen puisse se relâcher, relaxer, et donc le diaphragme thoracique puisse descendre. Et donc, il faut toujours démarrer par une expiration. Tirer légèrement le ventre vers l'intérieur. Tirer, hein, pas contracter. Tirer légèrement le ventre vers l'intérieur. Et ensuite, simplement le relâcher automatiquement, presque automatiquement, l'inspire sera bonne. Deuxième problématique pour la respiration, c'est les épaules. C'est pour ça la pratique des asanas, en tout cas quand c'est fait de la façon traditionnelle, est si importante. Les épaules ont tendance à être arrondies à nos jours, davantage. Il y a beaucoup moins de mouvements, de traction qu'on fait dans la vie quotidienne, Et ce qui fait que la cage thoracique, notamment au niveau des clavicules, elle est plutôt fermée. Et donc, le haut des poumons n'arrive pas à bien respirer. Donc, deux choses. Premièrement, se concentrer sur notre expire, chercher à vider les poumons chaque fois. Et deuxièmement, renforcer les arrière-épaules et le dos pour pouvoir mieux respirer.
Alors, il y a des choses que tu as dites là qui, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. C'est que je trouve très intéressante. Cette histoire d'expiration. En effet, c'est vrai que on a tendance en fait à pas bien vider en fait ses poumons. C'est ce que tu dis. Et c'est important parce que l'expiration, c'est aussi l'élimination. C'est relié en fait en Ayurveda à l'énergie de Vata. Et donc en fait c'est comment j'arrive à éliminer des choses aussi, donc c'est comme si voilà, je fais le vide en moi pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre, c'est comme si je fais de la place en fait, je nettoie. Et l'inspiration en fait c'est plus relié à l'énergie, au dosha kapha, qui est plus en fait qu'est-ce que je prends du coup, de quoi je m'alimente, puisque c'est relié un peu à une énergie anabolisante de nourriture. Et puis après il y a aussi la rétention dans la respiration souvent qui est quand même assez utile, et là qui est plus reliée à l'énergie du dosha pitta, puisque elle est plus en fait dans, elle a plus un caractère de transformation et de digestion. Est-ce que tu utilises ça toi aussi dans tes exercices de pranayama ou pas du tout?
Disons que chaque pranayama a ses propres effets sur les doshas. On ne peut pas concrètement les simplifier, même si ce que tu dis est assez juste, c'est-à-dire quand il y a l'apnée, donc quand il y a la rétention, il y a davantage le feu qui est présent. Mais dépendant de l'exercice, on va prendre l'exemple de Agnisar Kriya, qui est un exercice qui est excellent pour tout ce qui est massage des organes digestifs. Dans cet exercice, c'est complètement Pitta Dosha qui va être activé. Cependant, l'exercice se passe davantage sur l'expire et les rétentions. Mm-hmm. Il y a très peu d'inspire. Mais chaque pranayama va pareillement jouer sur tous les trois doshas d'une façon ou une autre. Typiquement, on parle de Vata sur l'expire, mais Vata, c'est aussi inspire. Inspire ne peut être fait uniquement à travers le pranavata. Sinon, il n'y aura pas l'inspiration.
Oui, non, bien sûr. Ça, c'est sûr qu'en fait, tous les pranayamas sont pour les trois doshas. Et évidemment, c'est juste pour donner en fait une image, parce que de toute façon, déjà, tous les mouvements sont reliés à Vata d'une façon directe ou indirecte. Donc, c'est certain, en fait, c'est indissociable, parce que c'est vraiment un exercice en soi, en fait, le pranayama. Donc, ça ne peut que, en fait, englober les trois doshas à chaque fois. Comme toutes les énergies, en fait, lunaire, solaire, enfin, voilà. Enfin,
absolument. Les trois doshas sont chaque fois incités à travailler. Après, c'est sûr que les différents pranayams vont jouer sur les différents doshas d'une façon différente aussi. Par exemple, quelque chose comme Surya Bhedan Pranayam, qui se fait à travers inspiration par la narine droite et expiration par la narine gauche va davantage augmenter Pitta Dosha, éliminer un peu plus Kapha Dosha, tandis qu'un autre pranayama comme Chandrabhedana, qui est exactement l'inverse, donc on inspire par la narine gauche et on expire par la narine droite, va davantage calmer le système digestif et donc Pitta Dosha va diminuer.
Exactement. Et est-ce que, par exemple, tu aurais des choses à dire à nos auditeurs sur le fait de respirer par le nez ou par la bouche? Parce que moi, on me pose souvent ces questions-là en consultation. Donc, je pense qu'il y a sûrement beaucoup de personnes qui se demandent ça aussi.
Alors, le nez, c'est primordial dans tout ce qui est respiration parce que ça contient le thermostat du corps. C'est uniquement si on respire par le nez que le corps ne subira pas la chaud et la froid. Déjà, ça empêche les microbes de rentrer. C'est vraiment un très, très bon filtre. Donc, en yoga, en tout cas, on va toujours chercher à respirer par le nez. Maintenant, il existe quelques exceptions là-dedans. Première exception, c'est bien entendu si la personne souffre d'un problème lié à ses narines. Dans ce cas-là, on peut trouver une façon de faire qui ne va pas inciter trop l'utilisation du nez. Mais ça, c'est vraiment les cas exceptionnels. Ensuite, il y a quelques pranayamas, notamment qui sont faits quand il fait très très chaud, qui sont faits à travers la bouche. C'est-à-dire l'inspire, ça passe à travers la bouche, tandis que l'expire reste toujours par le nez. Et troisième exception, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir d'une attaque d'anxiété. Dans ce cas-là, on va toujours inspirer par le nez, mais expirer par la bouche. Mais en dehors de ces exceptions, on va toujours respirer par le nez.
Oui, parce que en fait, enfin, les respirations aussi qui sont que par la bouche, ça a tendance, en tout cas, à augmenter Kapha et à favoriser aussi du mucus dans l'organisme.
Donc, absolument. Et ça nuit beaucoup le système digestif et le système immunitaire.
Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, mais dis donc, en tout cas, déjà, il y a beaucoup d'informations pour nos auditeurs. J'espère que ça va leur donner envie d'aller respirer mieux. Il y a beaucoup
j'espère, on a tous besoin de mieux respirer.
Ah, c'est clair, ça c'est clair. Et puis, y a énormément de techniques de pranayama. On en a vu déjà quelques-unes là, avec tes exemples, mais comment on fait pour trouver la meilleure respiration pour soi, Pankaj? Du coup, comment s'orienter en fait dans tout ça?
Il n'y a pas une meilleure respiration pour soi. Tous ces exercices ont des effets spécifiques. Donc, typiquement, quand on va faire une session de pranayama, on va faire plusieurs exercices. Le but de ces exercices, c'est de justement augmenter le souffle et la prana dans le corps. Et par la suite, la meilleure respiration pour tout le monde, c'est juste inspirer, être conscient du fait qu'on inspire, expirer, être conscient du fait qu'on expire, être conscient du moment de transition entre inspire et expire. Après, c'est sûr que, comme je disais, les respirations impactent les doshas et ils impactent aussi notre mental, donc les gunas. Et si quelqu'un est anxieux, dans ce cas-là, il faut lui trouver une respiration spécifique qui va l'aider davantage. Quelqu'un est stressé, pareil. Donc, typiquement, quelqu'un qui est très, très stressé, on va l'inciter à expirer plus lentement qu'il inspire. Quelqu'un qui manque d'énergie, en contrepartie, on va l'inciter à inspirer aussi longtemps qu'il expire, c'est-à-dire avoir la même durée pour inspire et expire, ce qui va énergiser le corps davantage.
Ok, et du coup, alors, Pankaj, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter en fait pour nos auditeurs, peut-être un petit mot de la fin pour pouvoir les orienter, leur donner des conseils ou juste ce que tu as envie de partager avec nos auditeurs par rapport à ce beau sujet qui est le pranayama?
La seule chose que j'ai envie de dire sur le sujet des pranayamas, c'est tant qu'on ne respire pas bien, c'est comme si une voile existait devant nos yeux. Ce n'est qu'à travers les pranayamas que cette voile commence à s'enlever. Et la clé des pranayamas, mais la clé de tout yoga, c'est être conscient de soi. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais très étonné de voir qu'il y avait carrément toute une, je vais dire, on parlait de pleine conscience comme étant complètement séparé de yoga, mais yoga démarre avec la pleine conscience. Pleine conscience, on en a besoin dans tout ce que nous faisons. Et c'est la seule chose que j'ai envie de partager, c'est être conscient de son souffle. C'est primordial. Tout ce qu'on sent dans la société en ce moment, l'anxiété, colère, tout ça, ça va commencer à disparaître si on commence tous à respirer d'une manière consciente. Et c'est un peu dommage qu'on ne trouve pas plus de cours où on pratique les pranayams. Parce que pour moi, on ne peut pas pratiquer yoga sans pratiquer les pranayams.
C'est sûr. Mais ça, du coup, en tout cas, on peut tout à fait, en fait, pratiquer les pranayamas avec toi à travers, en fait, les enseignements que tu proposes, les cours de yoga que tu proposes, puisque tu t'attaches vraiment au yoga traditionnel. Donc là, il y a vraiment, en fait, cette partie-là aussi. Donc, tu peux permettre aussi aux gens d'aller respirer, d'apprendre à mieux respirer.
Absolument, absolument. Moi, je considère que tant qu'on ne respire pas bien, la suite, il ne va jamais venir, quoi.
En tout cas, on va dire que c'est un énorme accélérateur.
Absolument.
Alors, en tout cas, mes pépites, vous retrouverez toutes les informations sur Pankaj dans la description de l'émission. Il y aura le lien vers son site internet, ses réseaux sociaux et puis il y a aussi sa page YouTube. Donc, vous verrez, il y a beaucoup de ressources, hein, il y a beaucoup de contenu. Vous allez pouvoir approfondir plein de choses très intéressantes et puis prendre contact avec lui, évidemment, si vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas. En ce qui concerne l'Ayurveda, vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi. Les consultations à distance sont possibles pour l'instant, en tout cas, sans prise de pouls. Toutes les informations sont sur mon site internet www.mira-ayurveda.com. Et en temps normal, bien sûr, quand nous ne sommes pas en confinement, je vous invite à venir prendre rendez-vous et venir à mon cabinet pour que je prenne votre pouls. Hein. Mais bon, on s'adapte. Vous pouvez également découvrir mon livre « L'Ayurveda sourire, quand la joie du cœur et la santé du corps » aux éditions Marie-Claire en version papier et aussi en livre audio sur Audible si vous n'aimez pas lire. Et puis, bien sûr, me suivre sur les réseaux sociaux via Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A, Ayurveda. Un grand merci, Pankaj, pour ce moment de partage.
Merci à toi, Gwenaëlle, et merci à tous tes auditeurs aussi de m'avoir écouté.
Ah, avec grand plaisir, merci Pankaj, vraiment, c'était riche et très intéressant, j'espère que tous nos auditeurs vont se rendre compte à quel point c'est important de respirer et qu'ils vont en fait justement aller vers toi pour pouvoir améliorer tout ça, refaire circuler l'énergie dans leur corps.
J'espère également. Belle soirée tout le monde.
Merci mes pépites pour votre attention et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires et surtout, rappelez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À bientôt.
L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Bhattar, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.